ministère de miracles contemporains. Vous avez la Dame de tous les peuples à Amsterdam. Et je peux vous assurer qu'avant que ça soit reconnu, vous avez des théologiens qui sont devenus chauves. Vous voyez ? Non pas seulement par l'âge, mais en se tirant les cheveux. Parce que vous avez des visions en pagaille, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Vous voyez l'Europe tourner comme sur un disque, un 33 tours. Vous avez la Vierge Marie qui désigne l'Angleterre, la sainte femme qui voit ceci, qui voit cela. Une de ses visions, c'est un calice débordant de sang qui tombe sur la terre. Enfin voilà, c'est un vrai festival. La demande de la co-rédemption, du dogme de la co-rédemption, ça très fortement dans la Dame de tous les peuples.
Du coup, ça annule toute authenticité, puisque la co-rédemption est une affaire réglée par le préfet pour la congrégation pour la foi, etc.
Non.
Ah, si, si.
Ben oui, mais il n'est pas le pape.
Qui a dit que l'affaire est terminée. Après, définition pontificale.
Oui, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant.
Un des cas du.
Oui. Mmh. C'est pas suffisant du tout. Comment ?
De quelle époque ?
De 45-57. Et d'ailleurs, il y a eu encore récemment des demandes qui ont été faites par des évêques pour le dogme de la co-rédemption. Et d'ailleurs, le cardinal Ratzinger a sans doute répondu sur l'opportunité. Mais en matière liturgique et en matière dogmatique, enfin de l'enseignement magistériel, il y a tant et tant de textes sur la co-rédemption. Il y a même des fêtes. Médiatrice de toute grâce, par exemple, comment ?
Ratzinger s'est aussi opposé à la médiation universelle.
Oui, et qui est affirmé par des fêtes qui sont dans le missel. Hein. Mais le cardinal Ratzinger, dans les matières libres, figurez-vous que Saint Thomas d'Aquin était contre l'Immaculée Conception. Hein.
Non, j'entends bien, mais là il se prononce après trois commissions internationales.
Oui. Je peux vous assurer qu'il y a eu plus de commissions sur l'Immaculée Conception que sur la co-rédemption. Hein. Et que vous aviez des théologiens qui étaient acharnés contre l'Immaculée Conception. Et donc, il n'était pas acharné, Saint Thomas d'Aquin. Il disait tout simplement que c'était une exception incroyable.
Saint Bernard
qui aimait beaucoup la bière.
Il n'est pas préfet, il n'a pas l'autorité. Quand Rome tranche, Rome a parlé. Enfin, voilà,
pas dans une.
C'est pas dans la co-rédemption, si. Alors j'en sortirai le texte.
Oui, mais c'est pas un dogme. Les dogmes ne sont jamais négatifs. Hein. C'est-à-dire que quand Rome a parlé, il dit il n'est pas opportun pour l'instant de parler de la co-rédemption. Comme il n'était pas opportun de parler de l'Immaculée Conception.
Et puis Joseph Ratzinger n'a pas toujours eu une théologie mariale traditionnelle.
Oui, et c'est.
Mais on s'en fout de Joseph Ratzinger. Là, il parle en tant que préfet de la congrégation.
Oui, mais c'est un temps de l'Église, de la vie de l'Église. Au XIIIe siècle, l'Immaculée Conception a été contestée par une majorité des théologiens.
Oui. Alors, je retrouve le texte, mais il me semble qu'il est un peu plus violent quand même que de dire que c'est pas opportun.
Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ?
C'est œcuménique, c'est toujours pareil, c'est parce que ça choque les protestants.
Voilà. Mais si vous voulez.
Avant, c'est jamais personne.
Oui. Mais quel que soit ce qu'a dit le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi à un temps T, il n'a pas fait supprimer toutes les mentions de Marie médiatrice. Il n'a pas pu. Oui, mais c'est très lié. Médiatrice de toute grâce, c'est aussi quelque chose de très important. Or, il y a actuellement des théologiens, comme c'est pas un dogme, Marie médiatrice de toute grâce, il y a des théologiens qui le nient. Mais quand on célèbre une messe de Marie médiatrice de toute grâce, c'est pas un choix théologique personnel du prêtre. C'est que l'Église le permet.
Oui. Plus que ça, parce qu'il y a une telle tradition tellement forte chez les pères, chez les auteurs médiévaux et chez les papes, notamment les papes récents, pour la médiation universelle, que c'est proxima fidei.
C'est proxima fidei. Mais voyez, alors, cette discussion très importante montre bien tout ce qui va arriver par rapport aux miracles qui vont venir. Les uns vont dire c'est de Dieu, les autres vont dire c'est pas de Dieu. Les uns vont dire c'est la Vierge Marie, d'autres vont dire c'est pas la Vierge Marie. Vous voyez ? Qui va trancher ? Vous voyez, la plus haute autorité, ce sont les jugements positifs. Car Amsterdam et la Dame de tous les peuples a été refusée comme surnaturelle en 1974. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est toujours sur le site du Vatican. Vous voyez ? Entre-temps, ce jugement a été réformé en 2002-2004. Et sur le site du Vatican, le webmaster, n'est-ce pas, celui qui s'occupe de la mise à jour du site du Vatican, eh ben, l'a pas enlevé, ou en tout cas, il devrait mettre l'autre décret ensuite. Vous voyez.
Et juste une correction sur la phrase de la prière par le Saint-Siège.
Voilà, le Saint-Siège a reconnu donc l'apparition d'Amsterdam, le Saint-Siège, en plus de l'évêque du lieu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une grave question sur la prière enseignée par la Vierge Marie à Ida, qui est morte à 90 ans, dans les années 90, et qui n'a jamais manifesté la moindre propension au péché. Elle est morte en odeur de sainteté sur des décennies. C'est pas mal pour une voyante, pour quelqu'un qui aurait vu la Vierge Marie, il est bon, vous voyez, qu'un voyant n'épouse pas une Miss America ou qu'une voyante ait comme surnom Fend la bise, n'est-ce pas, et c'est-à-dire qu'elle traverse une foule en admiration à chaque fois qu'elle va voir la Vierge Marie. Et c'est impressionnant, hein, c'est... Moi, j'ai vu les images, hein, ils sont là, elle avance, et la foule est là. Oh, la sainte. Oui. Et elle, modestement. Oui. Mais c'est très impressionnant. Alors, si c'est vrai, comment elle s'appelle, Vika? C'est Vika? Comment?
Vishka.
Si elle voit la Vierge Marie, si c'est pour notre temps, une consolation particulière, et que Marie apparaisse à Mézogorgé pour entretenir une ferveur des fidèles. C'est tout à fait possible. Et donc, on se dispute pour les uns les autres, parce qu'ils ont ouvert une maison, d'autres, pour certains, d'autres sont, comment dire, disent qu'ils ont une apparition même dans l'avion, même n'importe où, voyez. Ils ont 10 secrets qui leur sont confiés. Et au bout de 10 secrets, ils n'ont une apparition annuelle. La Vierge Marie leur dit, je ne vous apparaîtrai plus qu'un an, qu'une fois par an. Un des 5, ils sont 5, comment dire, c'est un peu pris de distance par rapport à tout ça, enfin je ne sais plus, enfin il en a une par an, enfin bon, il y en a qui en ont une par mois. Et je crois que Vishka en a actuellement une tous les jours encore. Vous voyez ? Mais si vous voulez, ça, on ne peut pas rester indifférent à ce genre de nouvelles par rapport aux miracles contemporains. Et là, en ce moment, on est suspendu. Le pape François, avec son franc-parler déroutant, lui apparemment n'y croit pas à titre personnel. Mais quand, à titre personnel, il voit un couple dans l'avion du Chili, il leur dit, voilà... Ah ben nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Oh, à l'époque, on n'a pas pu se marier à l'église parce qu'elle a brûlé. Hein? Et alors, depuis, tout a brûlé. Vous vivez sur un no man's land. Vous êtes toujours sous une tente dans le village. L'église n'a pas été reconstruite. Le chemin de la messe est un peu difficile. Il y a des cailloux, c'est lointain. Voilà, donc eux, ça fait 10 ans qu'ils n'arrivent pas à trouver une église. Au Chili, ça doit être difficile quand même. Franchement. Pas trouver une église au Chili, à Pâques surtout, au Dimanche des Rameaux, à mon avis. Mais qu'est-ce qui se passe dans la rue? Voilà. Donc, et donc ils disent, mais on s'aime d'amour tendre, on a eu un deuxième enfant il y a 3 ans, et tout ça. Ah oui, oui. Et donc, pour la petite histoire, il y a eu un complément d'information. Ils les auraient confessés. Donc, il y a les journalistes, toute la l'entourage pontifical qui est là dans l'avion, ben il s'est isolé, j'espère, enfin je sais pas. Donc il leur est confessé l'un l'autre, et puis il a reçu leur consentement. Voilà. Et donc ce même homme, si ça reste un homme, hein, comment dire, Georges Bergoglio, eh bien il considère en tant qu'homme qu'à Mezzogiorge, la Vierge Marie parle trop, pour ne rien dire, et il dit, la Vierge Marie n'est pas un facteur. Elle n'est pas là à vous poser une lettre toutes les deux minutes. C'est une manière extrêmement élégante et fine de qualifier les apparitions de Mezzogiorge. Mais si vous voulez, si l'Église a été si prudente jusqu'à présent et a fait au moins deux commissions, si ce n'est pas trois, c'est parce que là-bas, les gens se sanctifient en priant. Mais l'Église sait très bien qu'on peut, dans un lieu, prier sans que forcément la Vierge Marie soit là. Oui. À Notre-Dame des Victoires, il y a eu beaucoup de grâce. Hein. La Vierge Marie n'est pas censée être apparue à Notre-Dame des Victoires.
Monsieur le curé, il faut savoir que la Vierge avait dit à Saint-Pierre-Labouré quand elle est apparue rue du Bac,
oui,
qu'en fait les grâces qu'elle voulait répandre au pied de l'autel de la rue du Bac,
oui,
comme à l'époque c'était la chapelle du noviciat, comme maintenant, mais c'était pas public, c'était pas un lieu de pèlerinage, parce que
oui,
l'apparition n'était pas connue ni reconnue.
Oui.
Et du coup, elle avait dit à Catherine, comme les fidèles ne pourront pas accéder à la chapelle, ni à l'autel de la chapelle, je répandrai mes grâces, en attendant, à Notre-Dame des Victoires. Donc il y a un lien, c'est pour ça que l'archiconfrérie du Cœur de Marie de Notre-Dame des Victoires a comme un signe spécifique propre pour ses confrères la médaille miraculeuse de l'Immaculée de la rue.
Oui. Alors, vous, qui êtes si pointu, vous savez que l'apparition de la rue du Bac n'est pas reconnue par l'Église.
Oui, parce que, au sens canonique du terme, c'est vrai, parce que,
oui,
il n'y a pas eu de procès. Il n'y a pas eu de procès parce que,
sur Catherine. Écoutez jusqu'au bout.
Sœur Catherine Labouré n'a jamais voulu comparaître devant l'archevêque de Paris par humilité. Son confesseur lui a demandé, le père Aladel, lazariste, et elle a refusé systématiquement et fermement, disant que la Vierge lui avait demandé de tout dire à son confesseur et à lui seul.
Et pas l'archevêque.
Voilà. Et donc elle n'a jamais voulu témoigner devant l'archevêque. Elle est morte sans avoir vu l'archevêque. Donc du coup, pas de procès parce que pas de déclaration, rien. On a su qu'après ça.
Oh, on peut faire des procès sans interroger la personne. Actuellement, vous voyez, si l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, faisait un décret en disant la Vierge Marie est apparue rue du Bac, personne ne lui reprocherait. Hein. Ah, mais vous n'avez pas interrogé Sainte Bernadette? Ben non.
Ouais. Cependant, il y a eu une reconnaissance de facto par la liturgie.
De facto, c'est joli, hein. C'est-à-dire qu'il y a une messe propre où et il y a une bénédiction du rituel universel, du rituale romanum. C'est toutes les prières reconnues par le Saint-Siège.
On mentionne les apparitions.
Et il est indiquer la prière de la médaille en français dite miraculeuse.
De l'immaculée conception,
vulgairement
miraculeuse.
Voilà.
Dedans, on mentionne les apparitions nombreuses de la Vierge liées à la médaille.
Voilà. Donc là, si vous voulez, il n'y a pas de décret. Il y a une prière dans le rituel romain universel et une messe locale qu'on peut étendre.
Le père Kolb l'a pris comme première messe quand il a été ordonné.
Voilà.
Donc, c'est pas rien.
Voilà. Donc, vous voyez, tout cela pour vous dire ce soir, et c'est pas négligeable, que en matière de miracles et de faits miraculeux, de songes et d'apparitions, voyez-vous, à la fois nous en avons besoin, et la Vierge Marie n'en aurait pas fait tout ça pour rien, ou les saints n'obtiennent pas ces grâces pour rien, et en même temps, c'est quelque chose qui ne peut pas être la colonne vertébrale de votre foi et de votre piété. Car c'est trop disputé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que j'aime beaucoup les miracles, je sais pertinemment que cela provoque des discussions et que ce n'est pas absolument paisible. Quand vous avez à Fatima, ce qui est totalement reconnu, les enfants qui demandent la guérison de telle ou telle personne au village, la Vierge Marie va dire, là, il n'y a pas assez de prières. Elle va refuser d'intervenir spécifiquement avec son autorité maternelle sur le cœur de son fils, parce qu'elle sait, par révélation divine, voyez, qu'il n'y a pas assez de prières pour déclencher en quelque sorte la gratuité de ce miracle. Donc, et c'est là que, voyez-vous, le protestantisme et les jansénistes disent, c'est quand même pas normal que on parle d'une gratuité et d'une largesse divine dans le miracle, et qu'en même temps, on doit de quelque manière mériter le miracle. Il y a des miracles qui ne sont absolument pas mérités. Vous avez, de la personne miraculée. Mais très souvent, vous avez quelqu'un quand même qui a prié pour cette personne. Si vous voulez, la guérison d'une personne, il faut faire très attention dans la présentation du miracle. Donc là je suis très précis, écoutez bien. Vous demandez la guérison de votre enfant de 10 ans qui est atteint d'un cancer. Voilà, vous le demandez à Dieu Tout-Puissant. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, vous demandez à Dieu la guérison de votre enfant. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le paganisme, on fait des offrandes, on tue un bœuf, ou on sacrifie même un esclave, on fait un sacrifice humain pour obtenir la guérison du fils du roi. On essaye d'attendrir Dieu, le Tout-Puissant, qui peut guérir cette personne, ou qui peut le laisser mourir, parce que Dieu est maître de la vie et de la mort. Nous-mêmes, lorsqu'on demande à Dieu un emploi, parce que ça fait longtemps qu'on est au chômage, on lui demande une grâce matérielle. Et parfois, ça tient du miracle de trouver un travail par rapport à nos capacités, à ce qu'on a reçu, à notre formation. Alors, on est triste que Dieu ne nous accorde pas de passer toutes les difficultés humaines pour avoir cet emploi. Mais avoir un travail, c'est un miracle moins fort que de guérir d'un cancer. C'est peut-être même pas un miracle du tout, parce qu'il y a des personnes qui vont chercher et obtenir un emploi parce qu'ils ont remué ciel et terre. Donc, d'un point de vue purement religion naturelle, on entre en discussion avec Dieu, avec la divinité, pour obtenir une grâce. Alors, avec le vrai Dieu, comment ça se passe ? Eh bien, vous lui offrez de la cire. Vous voyez ? Une bougie. Vous voyez ? Tenez. Vous voyez ? Alors, dans les religions païennes, on offrait un bébé, ou on offrait... Là, c'était plus sérieux quand même. Hein. Bah, crash, bah. Ah, tiens, Baal, je te donne un enfant, je te donne... Le grand Inca, lui, quand il voulait gagner une guerre, il tuait 1000 soldats. Hein. C'était plus sérieux comme offrande qu'un petit lumignon. Hein. Tout. Voilà. Je voudrais la guérison de mon fils. Et voyez-vous, le vrai Dieu, lui, est un Dieu d'amour. Donc quand une personne va dans une église, allume une petite bougie en pleurant parce que son fils est malade, le bon Dieu va pas le regarder comme le grand Inca. Mais alors, quelle est la volonté divine dans ces moments-là? Dieu est amour. Dieu nous aime personnellement. Il veut notre bien. Il veut notre bonheur intrinsèque et pour toujours. Donc dans notre vie humaine, tout ce qu'il permet est agencé pour ce bonheur. Pour que psychologiquement et volontairement, on puisse faire le plus de bien possible. Et c'est la raison pour laquelle le vrai Dieu, qui est un Dieu d'amour, ne nous guérit pas forcément, ne nous exauce pas forcément sur telle ou telle demande. Mais la clé du refus d'une grâce matérielle légitime, ça y est, vous demandez à ce que votre voisin meure, parce qu'il vous, c'est un poison pour vous. Donc vous allez demander à Baal qu'il crève. Mais ça, vous pouvez toujours demander au Christ que votre voisin meure, là vous ne serez jamais exaucé. Mais si vous lui demandez quelque chose de bon et de légitime, alors il vous écoute. Mais est-ce que c'est le meilleur pour vous? Vous voyez, c'est l'enfant. C'est toujours les mêmes exemples, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'enfant qui est malade et à qui on va donner un médicament amer. C'est celui qui a une gangrène et à qui on va couper un membre. Eh bien, c'est par amour pour le malade et en toute justice que le chirurgien va lui couper le pied, qui est totalement pourri, totalement abîmé. C'est par amour pour son enfant qu'une maman va le frictionner et lui faire mal momentanément, mais pour son bien. Et donc, nous qui acceptons des piqûres, qui acceptons des traitements, voyez, on a du mal à accepter que Dieu, lui, nous laisse souffrir momentanément ou même un peu longuement parce que c'est meilleur pour nous. Autre chose, vous avez aussi le péché. Vous dites, quand saint Paul demande à Dieu de ne plus avoir de tentation charnelle, il a un aiguillon, il dit, j'ai un aiguillon dans la chair, un envoyé de Satan qui me persécute. J'ai demandé à Dieu par 3 fois de le retirer et il m'a dit, ma grâce te suffit et ma puissance se manifeste dans la faiblesse. C'est pas pour ça que, alors vous allez dire, oui, mais saint Paul, lui, résistait à la tentation. Moi, j'ai des tentations et je n'y résiste pas. Ce que je demande à Dieu, c'est non pas de devenir un morceau de bois, mais de ne pas pécher, de ne pas succomber à la tentation. Mais vous avez des personnes colériques qui ne vont pas faire des péchés de sensualité, je sais pas. Vous avez un homme qui est extrêmement sensuel et qui va voir une prostituée toutes les semaines. Et qui en est malheureux, qu'il cache à son épouse, il en peut plus, il dit c'est affreux d'être aussi sensuel, je sais pas, pourquoi Dieu ne fait pas un miracle sur mon imagination pour que j'arrête d'être attiré comme ça ou que mon corps soit calmé. Eh bien, vous avez des personnes qui sont colériques, qui ne supportent pas la contradiction. Alors, à eux aussi, Dieu devrait leur changer leur tempérament pour qu'ils ne puissent jamais plus être ni agacés, ni se mettre en colère. Ça aussi, c'est un miracle au sens propre, parce que changer le tempérament d'un être humain par rapport à sa liberté, c'est une intervention divine. Dieu préfère que nous ayons notre tempérament jusqu'à notre mort. Pourquoi ? Parce que c'est notre voie de sainteté. De surmonter tout ce qui peut être un obstacle à l'exercice, comment dire, parfait et agréable de la vertu. Notre liberté, en surmontant le mal, se manifeste dans le bien. Et donc Dieu ne va pas nous exaucer sur des miracles psychologiques ou, comment dire, spirituels particuliers. Alors même que, pour nous énerver, il l'a fait. Vous avez des saints qui ont eu des tentations et qui ont demandé de ne plus avoir de tentations charnelles et qui ont... alors ça fait rêver, ça fait rêver les hommes surtout, qui sont un peu plus torturés que les dames. Mais voyez-vous, il y avait la ceinture de saint Thomas d'Aquin privait de toute tentation charnelle. Il y en a, c'est une ceinture que la Vierge lui avait donnée.
Les anges
l'avaient donné. Un cardan angélique.
Et l'Église a reconnu des reproductions. Dans le rituel, il y a une bénédiction spéciale pour porter le cordon pour les hommes, ou éventuellement pour les femmes, qui le
désirent. Sauf que saint Thomas d'Aquin, si vous voulez, avait tellement résisté à tant de tentations qu'à un moment donné, le bon Dieu a considéré que c'était plus le problème. Pour lui. Que c'était pas la peine de laisser la nature le torturer un peu plus longtemps. Et qu'il avait d'autres choses à faire en théologie. Oui. Et donc, il n'a plus eu aucun problème de tentation charnelle. Oui.
Saint-Augustin a souffert jusqu'à sa conversion.
Oui, et peut-être même après, on ne sait pas. On dit que Saint-Alphonse de Liguori, qui avait 85 ans, 90 ans, était toujours sur les charbons ardents. Hein, donc, Mais si vous voulez, les hommes sont obsédés par les péchés d'impureté. Et alors, en ce qui concerne la charité, ça, alors là, ils sont très très à l'aise. Hein, qu'ils soient méprisants, insouciants, Dieu pardonne facilement. Mais alors qu'ils soient un peu libidineux ou qu'ils tournent la tête, c'est sans doute quelque chose de très grave et qui va les envoyer directement en enfer. Seulement, voyez-vous, si vous voulez, les péchés de faiblesse qui sont graves en soi parce qu'ils tirent la nature humaine vers le manque d'amour dans le couple, les blessures dans le couple, et puis aussi un affaiblissement de notre volonté et de notre vertu, c'est par rapport à la charité que tout se concentre. Hein. Vous voyez, c'est sur l'amour et sur la charité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre prochain que nous sommes jugés. Pas sur nos performances hormonales ou nos performances de vertu, à savoir si on peut supporter une douche froide. Voyez. C'est très très important. Et dans le même temps, nous sommes dans un monde qui tombe dans une telle sensualité et de telles tentations par rapport à toutes les images possibles, imaginables qu'on trouve sur Internet, que là, on est vraiment exposé à des tentations redoutables. Enfin, qui ne sont pas, si vous voulez, les péchés les plus graves. Les péchés les plus graves, c'est de vouloir faire souffrir l'autre pour le faire souffrir. Le péché, un péché mortel, c'est, vous voyez, gâcher un repas de famille. Quelqu'un qui, par pure malice, va provoquer une querelle, une dispute, rappeler une querelle pour que les personnes s'insultent lors d'un repas de familial. Mais ça, c'est un péché mortel. Et si la personne meurt à ce moment-là, elle va en enfer comme une pierre. Et j'aime à le dire. Bon, peut-être que s'il n'a pas la pleine advertance et le plein consentement à cette envie monstrueuse de vouloir rappeler cette querelle et cette dispute de famille pour que tout le monde se bouffe le nez pendant ce repas, alors il pourrait aller au purgatoire jusqu'à la fin des temps. Mais, normalement, c'est l'enfer. Vous voyez. Eh bien, le miracle, dans le futur, maintenant, c'est vraiment une miséricorde de Dieu actuellement. Qu'il y ait des apparitions, comme par exemple, il y a des apparitions chez les orthodoxes qui ont été reconnues en Égypte, qui sont assez impressionnantes, puisque des centaines de personnes ont filmé des croix lumineuses et une silhouette de Marie, une silhouette de femme lumineuse au-dessus de la cathédrale copte du Caire, ou de proche du Caire. D'une église, hein, d'une grande église. Il y a un lieu particulier.
Zaytoun.
Et je peux vous assurer que vous êtes confondus par tous les films qui ont été faits. Tous représentent exactement la même chose. Trois croix lumineuses et une femme lumineuse. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, ça peut être démoniaque, seulement il n'y a pas eu de mauvais fruits de ces apparitions. Et les coptes sont, les chrétiens égyptiens sont persécutés comme plâtre. Et ça veut dire justement que c'est une consolation. Et cette apparition, alors qu'on attend la gloire de Dieu, la manifestation glorieuse de Dieu, parfois justement Dieu fait des miracles, mais pour nous soutenir alors que nous allons mourir de notre maladie ou du martyr. Combien de récits de martyrs ont été consolés par des apparitions la veille de leur martyr, pendant leur martyr. Voyez, vous avez Saint Étienne, le proto-martyr. Il a eu la vision du Christ. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit que le Christ est spécialement revenu du lieu où il se trouve dans la vie éternelle pour apparaître à Saint Étienne. C'est-à-dire que l'apparition du Christ a été en chair et en os à Saint-Étienne. Il lui est apparu physiquement. C'est une exception qui est donnée. C'est comme pour Saint Paul aussi. On considère que le Christ est apparu physiquement à Saint Paul et à Saint Étienne. Et alors que pour Sainte Marguerite Marie à la Coque à Paray-les-Moniales, le Christ lui apparaît en hologramme. Comment ?
Comme Mélenchon.
Et quand le Christ apparaît sous forme d'enfant, c'est forcément pas le corps véritable du Christ. Pourquoi ? Parce que le Christ est adulte. Il fait une apparence. Et quand un ange vous apparaît, il concentre de la matière pour faire une apparence visible. Ou il n'a pas de, il ne fait pas une apparence visible et il apparaît à votre imagination et rien n'est visible, ou il se rend visible et n'importe qui pourrait le voir. Quand par exemple les anges sont apparus et que des centaines de personnes ont vu ces anges, c'est que l'ange a fait un faux corps. Les anges de la résurrection ont sans doute eu un faux corps pour que toutes les saintes femmes les voient là où ils étaient.
Ils jouent sur les matières,
ils prennent. Et voyez-vous, de la même manière qu'actuellement à Hollywood, on fait des masques et des corps en comment dire extrêmement ressemblants au corps humain. Nous, ça nous prend des semaines à faire un mannequin parfait. Pour un ange, lui, il ne fait pas que déplacer des objets, un ange. Il agit sur les atomes. Mais il peut faire un corps parfait. Et je me plais à vous dire et à vous répéter que je pense que les anges ne font pas les organes intérieurs. Ça n'a aucune utilité. Parce que, voyez-vous, je suis tellement tordu que même en cours en théologie, je pouvais aller jusqu'à poser ces questions. Et est-ce que une apparence angélique va jusqu'au détail à l'intérieur du corps? Mais ça, voyez-vous, j'en avais la réponse moi-même, donc j'ai pas embêté le professeur pour pas qu'il meure de rire ou. Mais quand vous verrez des anges apparaître au-dessus de Paris ou à certains endroits, eh bien, dites-vous que ce ne sont pas des vrais corps humains. Quand c'est voulu par Dieu, on appelle ça miracle. Même lorsque c'est des anges qui agissent, ils ont une permission divine pour faire ça. Au sens propre, c'est un prodige, c'est prodigieux, parce que c'est pas Dieu qui le fait. C'est l'ange qui concentre de la lumière, qui agit avec sa puissance naturelle. Les démons ne font que des prodiges.
Oui. Si c'est naturel à l'ange,
oui.
C'est un miracle parce qu'il n'y a rien de surnaturel en soi. C'est naturel à l'ange.
Oui, mais c'est surnaturel pour nous.
Oui, pour nous, oui, mais. D'accord.
Et c'est miracle au sens large.
Ça, je veux dire, ce que fait l'ange n'est pas miraculeux en soi. C'est conforme à sa nature.
C'est surnaturel. Qu'est-ce que le mot miracle? Le mot miracle, c'est ce qui dépasse la loi naturelle constatée par la nature humaine. Quand vous avez ça qui se promène pendant que je vous parle, vous avez beau vous dire, si c'est un ange qui le fait et pas Dieu directement, c'est pas un miracle. Vous serez quand même très très étonné. Si le verre se déplace tout seul autour de moi, comme ça, eh bien, même si c'est un ange qui le fait, pour vous, au sens large, ça sera un miracle. Vous voyez. D'abord parce que ça dépasse les lois qui sont communes à la nature humaine, la loi de la gravité. Mais ce n'est pas directement contraire à la loi de la gravité puisque l'ange a une action, a une force sur la matière et donc qui compense l'attraction terrestre. Donc ce n'est pas contre nature qu'un ange déplace des objets. Mais si c'est Dieu qui le fait, comment ? Voilà, mais c'est les anges, les esprits.
Ça, c'est des anges.
Oui.
Ça peut être des mauvais anges.
Ça peut être des anges, des esprits qui aiment Dieu, qu'on appelle anges. Ça peut être des esprits qui détestent Dieu, ça peut être des démons. Et ça peut être des âmes humaines séparées, qu'on appelle des fantômes.
C'est de la télékinésie ?
Non. La télékinésie, ça n'existe pas. C'est l'âme humaine d'un homme vivant qui ferait bouger l'objet en dehors de son corps. Actuellement, moi, en télékinésie, je suis très fort par rapport à mes doigts. Mais mon âme, dans mon corps, fait tout bouger dans un ensemble. Vous voyez ? Et donc, ça veut dire que l'esprit humain, tel un ange, bouge de la matière. Hein. Mais avec une maîtrise, les nerfs, si vous voulez, si c'était purement mécanique, voyez, lorsque l'âme sort du corps, eh bien, il y aurait quelque chose qui bougerait encore. C'est comme le canard à qui on coupe la tête et qui continue à marcher. Mais je peux vous assurer que l'âme n'est pas extatique. Il y a en matière de voyage astral, on ne reconnaît que la bilocation. Mais c'est Dieu qui sort l'âme du corps pour qu'un saint agisse là où sont à un autre endroit, et Dieu maintient le corps en vie alors qu'il n'y a plus l'âme dans le corps. Ça, c'est ce qu'on appelle la bilocation. Et au XXe siècle, le saint Padre Pio a fait des centaines de bilocations, au moins 200, d'après les témoignages. Donc son corps était inerte et ne se décomposait pas, et son âme agissait ailleurs avec un corps d'emprunt.
Est-ce que ça peut être déclenché par sa propre volonté ?
Non. Il n'y a que Dieu qui puisse sortir notre âme de notre corps sans qu'on meure. C'est-à-dire qu'il n'y revienne plus. Et la mort, c'est l'âme qui sort du corps et qui est jugée par Dieu, tout de suite. Alors comment des âmes de mort peuvent-elles agir sur terre ? Par permission divine uniquement. Et la plupart du temps, ce ne sont pas des morts qui agissent. Ce sont des démons qui connaissent totalement la vie du mort, sa voix, son comportement, son histoire, et qui vous font croire que c'est le mort. À chaque fois que vous faites de la chiromancie, ce sont à 99%, ce sont des démons qui vous répondent, avec la voix de votre mère, avec tous les souvenirs de votre mère. Dieu interdit d'entrer en contact direct avec les morts. Dieu ne nous permet que de demander aux morts de prier pour nous. On peut parler à nos morts, on peut parler à nos êtres chers qui sont morts, uniquement pour leur demander des grâces, d'obtenir des grâces pour nous. Et ça, c'est possible. Moi, vous voyez, ma grand-mère, je vais lui parler pour lui demander de prier pour moi, prier pour des intentions. Et c'est pas de la chiromancie, c'est pas du tout de la nécromancie, oui.
Quand vous dites, vous demandez à votre grand-mère de prier pour vous, mais
oui.
Si votre grand-mère est au purgatoire, on ne sait pas où elle est.
Ah ben ça, moi je le sais pas. J'espère qu'elle est au purgatoire ou au ciel.
Mais
l'Église nous dit que les âmes du purgatoire prient pour nous. Elles ne peuvent plus prier pour elles, parce qu'elles ne méritent plus. Mais elles prient pour nous. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui, non, je croyais que ça.
Oui. Oui ?
Non.
Non.
Comment on va discerner les
mondes ? Eh bien, c'est... Quand il vous arrive des choses un peu bizarres, parlez-en à un prêtre. Si ce prêtre ne croit ni en Dieu ni en diable, eh bien, parlez-en à un autre prêtre.
Oui. Oh
oui, parce que justement, il a donné sa vie pour connaître et discerner. C'est à lui qu'il faut en parler. Et au-dessus du prêtre, c'est l'évêque qui a le mot final. Alors quand vous avez un évêque qui ne croit pas en l'existence des anges, ça va être difficile de nommer un grand exorciste. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il nomme un prêtre psychologue, psychiatre, qui va rassurer la personne. Mais lui n'y croit pas, le prêtre n'y croit pas. Voilà. Et puis quand ils sont face à des phénomènes surnaturels, comme de la lévitation, là, ils rigolent beaucoup moins. Mais le bon Dieu peut très bien les laisser dans leur incrédulité par... Vous voyez. En tout cas, je peux vous assurer qu'à Paris, Dieu a miséricordieusement a manifesté très clairement au grand exorciste de Paris et à des prêtres qui l'accompagnaient, des possessions de manière surnaturelle. Et donc, là, c'est très très bon pour ces prêtres. Je peux vous assurer que les trois prêtres qui étaient présents, le grand exorciste, un collaborateur exorciste et un prêtre témoin, et qui ont entendu cette personne parler en néerlandais, je peux vous assurer que eux, ils seraient dans le péché contre le Saint-Esprit de considérer que la possession n'existe pas. Parce que franchement, que cette personne de 23 ans, cette jeune femme de 23 ans, ait appris le néerlandais en secret, c'est... Alors, le discernement, c'est des choses cachées, une force surnaturelle, une science impossible, n'est-ce pas, et un langage impossible. Oui, oui. Donc, le discernement des miracles, voyez-vous, ça sera toujours l'autorité de l'évêque. On va arrêter là pour que vous...